Lâcher prise et prise de position, c'est comme cela que j'ai intitulé la prédication de ce matin. On va lire dans un instant un passage dans 2 Chroniques 20, et après la prédication aussi, il y aura un court moment aussi si vous souhaitez aussi échanger voilà, sur ce qui aura été partagé dans cette prédication, un court moment parce que après, vers la fin du culte, il y a encore beaucoup de choses, on entendra des témoignages et d'autres choses encore, mais je laisserai l'occasion après cette prédication aussi pour qu'on puisse voilà, réagir ou s'il y a des questions. Donc voilà, il y aura un tout petit diaporama qui nous accompagnera aussi pendant cette prédication. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'un non-événement, c'est-à-dire un événement qui n'a pas eu lieu. C'est pas qu'il s'est rien passé, sinon je vous raconterai rien, mais il ne s'est pas passé ce qu'on pouvait attendre. On imagine une défaite du peuple de Juda, mais l'histoire va prendre une toute autre tournure, comme c'est souvent le cas de la Bible, dans la Bible et avec Dieu. Ça se passe au 9e siècle avant Jésus-Christ, c'est une histoire que l'on trouve dans l'Ancien Testament, dans le 2e livre des Chroniques, et je vais vous lire à présent quelques extraits donc de 2 Chroniques au chapitre 20. Et c'est là que normalement on devrait avoir aussi l'affichage du texte en même temps que je le lis. Donc j'attends quelques instants encore, comme ça facilitera le fait de suivre. C'est la version dans la Bible du Semeur voilà, que j'utilise pour le texte de ce matin. Donc voilà, on peut afficher les premières diapos avec le texte. Voilà, les Moabites et les Ammonites, renforcés par des Maonites, se mirent en route pour faire la guerre à Josaphat. On vint prévenir Josaphat en ces termes : une vaste armée est en train de marcher contre toi, d'au-delà de la mer Morte et d'Édom. Josaphat prit peur et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda, et les Judéens se rassemblèrent pour implorer le secours de l'Éternel. Ils vinrent de toutes les villes de Juda. Josaphat se tint debout avec l'assemblée des gens de Juda et de Jérusalem dans le temple de l'Éternel. Il pria ainsi : « Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu, habitant dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Du fond de notre détresse, nous implorons ton secours, alors tu écouteras et tu sauveras. Car nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée qui vient nous attaquer, et nous ne savons que faire, mais nous tournons nos regards vers toi. » Tout Juda, femmes et enfants y compris, se tenait debout devant l'Éternel. Alors l'Esprit de l'Éternel vint sur Yahaziel, fils de Zacharie, au milieu de l'assemblée. Yahaziel dit : « Soyez attentifs, vous tous qui habitez Juda et Jérusalem, et toi aussi, roi Josaphat. Voici ce que vous déclare l'Éternel : ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. Demain matin, marchez contre eux. Ils vont gravir la montée de la fleur. Vous les rencontrerez au bout du défilé à l'entrée du désert de Yeruel. Vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. » Le lendemain matin, ils se levèrent tôt et les hommes se mirent en route pour le désert de Tekoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole : « Écoutez-moi, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, faites confiance à l'Éternel votre Dieu et vous serez invulnérables. Faites confiance à ses prophètes et vous aurez la victoire. » Ils s'étaient concertés avec le peuple et avaient placé en tête de l'armée des musiciens pour louer l'Éternel et la majesté de sa sainte personne. Ils se mirent en route devant les soldats en armes en chantant « Louez l'Éternel, car son amour » durera toujours. Voilà quelques extraits de 2 Chroniques 20. Si vous lisez l'ensemble du chapitre, il y a encore quelques détails en plus, mais l'essentiel du récit est là. Alors, pour situer l'action, il faut savoir que le roi Josaphat est roi de Juda dans les années 870 avant Jésus-Christ. Donc, on est dans une toute autre époque que la nôtre aujourd'hui. Le peuple de Dieu s'est divisé en deux. Il y a 2 royaumes, au nord Israël et au sud le royaume de Juda, avec Jérusalem comme capitale. Que ce soit pour le livre des rois ou le livre des chroniques, le roi Josaphat est qualifié de bon roi. Il a fait ce qui est juste aux yeux de l'Éternel. Il a mené une série de réformes religieuses et gagné quelques batailles. Il a amené une certaine paix dans le pays, mais cette fois la situation est particulièrement tendue et le roi Josaphat a peur, nous est-il dit. Il est face à un défi de taille. Il a peur parce que cette armée qui monte contre lui est immense. C'est répété plusieurs fois pour insister sur la menace. C'est une grande armée qui s'avance vers le peuple de Juda et le roi Josaphat. La coalition des armées ennemies est impressionnante et l'armée de Juda ne pèse pas lourd devant cette coalition. Le roi et tout le peuple en ont pleinement conscience. Cela rappelle un petit peu aussi le livre de Néhémie où il s'agissait de reconstruire les murailles de Jérusalem. Et il nous est dit que les murailles de Jérusalem s'étendent sur une grande distance et où, je cite, « le travail est considérable », être face à un défi de taille. Nous avons parfois dans la vie des choses qui nous paraissent immenses, des chantiers ou des combats à mener, ou encore des défis à relever qui nous semblent insurmontables. Et notre réaction peut être la même que celle du roi Josaphat, c'est-à-dire la peur. Tout comme Josaphat a eu peur, mais il va faire un choix qui sera décisif. Il décide de consulter l'Éternel. Il fait comme David a fait avant lui, à plusieurs reprises, avant des batailles contre les Philistins, pour récupérer des prisonniers dans un village, dont 2 de ses femmes, et au moment de son sacre également. Plusieurs fois, David consulte l'Éternel, et Josaphat fait pareil ici. La prière de Josaphat est intéressante. Malgré les apparences, ce n'est pas une prière si tranquille et apaisée que cela. Il va interpeller Dieu dans sa prière. D'abord, il va rappeler à Dieu qui il est. « N'es-tu pas Dieu habitant dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations ?» Or, évidemment, c'est une question qui est rhétorique. La réponse est évidemment oui. Oui, Dieu est Dieu, et il est notre Père qui est aux cieux. Cela va sans dire, mais cela va mieux en le disant. Deuxièmement, il interpelle Dieu en lui rappelant la promesse qu'il a faite à son ancêtre Salomon, son arrière-arrière-grand-père, lors de la dédicace du temple. Le temple était à peine construit, il est inauguré, et puis la promesse était que si tout le peuple se tenait debout dans le temple, alors Dieu écouterait leur requête. Et là, le texte nous dit, on a ce petit détail, que les femmes, les enfants y compris, se tenaient debout dans le temple. C'est pour cette raison que le récit mentionne ces détails. Il y a une promesse derrière. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et cela se vivait dans le temple aussi, je l'exaucerai des cieux et son pays, je guérirai. » C'est écrit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Et là, Josaphat, dans sa prière, rappelle un peu tout cela. « Tu as fait cette promesse, Seigneur. Alors, je compte sur toi, sur la base des promesses que tu m'as faites, que tu as faites à ton peuple. » Josaphat n'a pas peur de rappeler à Dieu ses promesses. Il ose s'adresser comme cela à Dieu. Il fait preuve d'une certaine hardiesse dans sa prière. Et là aussi, il fait comme David et comme Abraham avant lui. Des gens qui n'ont pas eu peur d'interpeller Dieu dans leur détresse. Il ose, mais ce n'est pas non plus un acte de rébellion, ni même de revendication, c'est plutôt un acte de confiance, un acte de foi. Dans sa prière, il veut se baser sur les promesses de Dieu. « Seigneur, souviens-toi de tes promesses et de nous par la même occasion. » La promesse et le lâcher-prise. Dieu répond et va faire une promesse extraordinaire par la bouche d'un prophète, du prophète Yahaziel. « Voici ce que vous déclare l'Éternel, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette bataille n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. » Alors c'est une expression tout à fait étonnante, « cette bataille n'est pas votre affaire, c'est l'affaire de Dieu. » En anglais, on dirait « it's not your business ». C'est l'affaire de Dieu. Ce que le prophète porte-parole de Dieu dit au roi et au peuple, c'est de lâcher l'affaire. Ou pour le dire autrement, de lâcher prise par rapport à cette bataille dont l'issue semble inéluctable. Ils étaient battus sur le papier. Lâcher prise signifie aussi lâcher le contrôle de la situation ou l'illusion du contrôle, puisque c'est l'affaire de Dieu. Lâcher prise, c'est quand on se crispe des fois sur quelque chose avec angoisse. C'est lâcher aussi sa peur, dans ce cas par rapport à l'immense armée qui allait attaquer le peuple. Ne vous laissez pas effrayer, cette guerre est l'affaire de Dieu, dit Yahaziel. Et Josaphat n'a plus peur, ou en tout cas beaucoup moins peur, puisque dans la suite du récit, c'est lui-même qui va encourager les Judéens à ne plus avoir peur. À l'exemple de Josaphat, je me disais que nous pourrions nous aussi avoir moins peur dans la vie si nous acceptions de lâcher prise et de nous abandonner entre les mains du Dieu souverain. Mais alors, si on nous dit que c'est l'affaire de Dieu, est-ce que c'est pour autant une invitation à ne rien faire? Absolument, absolument pas. On ne peut pas dire « ce n'est pas mon affaire, donc je ne fais rien ». La suite du discours de Yahaziel nous dit « contentez-vous de prendre position et de vous tenir là ». Il s'agit d'une prise de position. Contentez-vous d'être là, mais soyez là. Il ne s'agit pas de fuir, de prendre la tangente ou de faire comme l'autruche, mettre sa tête dans le sable pour éviter le danger. Il ne s'agit pas non plus, autre expression de la langue française, de filer à l'anglaise. Petit coup au match d'hier. Je ne sais pas d'ailleurs d'où vient cette expression, mais c'est sans doute pour taquiner nos voisins grands bretons qu'on aime beaucoup par ailleurs. En tout cas, ne pas se dérober comme on a envie de le faire parfois quand la tâche nous semble trop lourde, quand la situation paraît au-dessus de nos forces. Donc, lâcher prise, oui, mais pas baisser les bras. Ne pas se dérober, mais rester là et prendre position sur la base des promesses de la parole de Dieu. Un jour, un père et son fils sont partis faire une randonnée dans les Pyrénées. Ils n'avaient fait à peine que 300 mètres de dénivelé lorsqu'un berger des Pyrénées leur demande de l'aider à rassembler son troupeau qui est dispersé dans la montagne. Et à ce moment-là, ils hésitent parce que ça leur paraît une tâche énorme et ils ont quand même leur randonnée à faire. Ils hésitent à répondre qu'ils étaient d'accord de donner ce coup de main. Et finalement, ils acceptent, même s'ils ne l'avaient pas programmé, et ils se décident à aider donc ce berger. Et à leur grand étonnement, le berger ne leur demande pas de faire grand-chose, il leur dit simplement « tenez-vous là, restez là, à l'endroit qu'il leur désigne ». Et il place donc le père et son fils à quelques dizaines de mètres d'intervalle, il donne des coups de sifflet, les chiens rassemblent le troupeau et le conduisent là où le berger voulait les faire aller. Il suffisait de rester là et de prendre position. Le berger a fait le reste, le tout en 15 minutes. Ça ressemble un petit peu à notre histoire de ce matin. Rester là, prendre position, mais pas prendre position dans le vide non plus. On prend position sur un terrain solide. Les Israélites sont invités à se tenir sur un terrain solide et bien stable, celui de la promesse que Dieu va combattre pour eux. Ils s'appuient sur la confiance que Dieu tient ses promesses. Peut-être dans la vie, on a des gens qui nous ont fait des promesses et ils ne les ont pas tenues. Mais Dieu, lui, tient ses promesses. Et cette confiance dans les promesses, depuis Abraham, cela s'appelle la foi. Et la foi n'est pas une confiance fragile. C'est vraiment quelque chose de solide sur lequel on peut s'appuyer. On note d'ailleurs chez Josaphat le passage de la peur à la confiance, puisque c'est lui-même qu'il va encourager ses troupes en leur demandant de placer leur confiance en Dieu. La confiance est revenue, ils vont prendre position sur cette foi en un Dieu qui les aime d'un amour éternel. Et ils vont faire quelque chose d'ailleurs de très surprenant. Ils vont mettre en tête de cortège le groupe de louanges de l'époque qui va chanter non pas des chants de guerre, ni même des chants de victoire, mais un chant qui met en avant l'amour de Dieu. C'est quand même très surprenant ça, hein, imagine dans une armée, et ceux qui marchent devant chantent l'amour de Dieu, l'amour de Dieu en tête, l'amour de Dieu à l'avant-garde de la foi. Et c'est comme cela que les Israélites vont gagner cette bataille sans la combattre. C'est pour cela que je parlais aussi en introduction d'un non-événement, un événement qui n'a pas eu lieu, une bataille qui n'a pas eu lieu, un affrontement entre plusieurs peuples qui n'a pas eu lieu. La suite du récit nous montre en fait que les coalisés se sont disputés entre eux et se sont fait la guerre mutuellement. Ils se sont anéantis. Le peuple a gagné cette bataille en lâchant prise et en prenant position dans l'amour de Dieu. Alors vous l'avez compris, j'aime beaucoup cette double pensée, à la fois lâcher prise et prise de position dans la foi. Ceci n'est pas votre affaire, mais tenez-vous là. Cela pourrait être pour nous, si nous sommes chrétiens ou en recherche, et quelle que soit la bataille que nous ayons à mener, peut-être simplement la bataille de la vie quelquefois en général. Cela pourrait être un repère pour nous. Dieu nous dit, ce n'est pas ton affaire. Contente-toi de te tenir là, devant moi, et de prendre position sur le fondement solide de mon amour manifesté en Jésus-Christ. Cela me fait penser également aux lettres de Paul, aux chrétiens de Colosse, par exemple, où il parle de notre position, justement, de prendre position, de quelle est notre position en Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, dit Paul en Colossiens 2, verset 10. Il poursuit en affirmant que votre vie est cachée en Christ, c'est-à-dire que Dieu nous voit à travers Jésus-Christ et il voit des bien-aimés en chacun d'entre nous, en qui il met son affection. Il voit des fils et des filles qu'il a adoptés. Et plus loin, il va parler même du positionnement des enfants de Dieu comme personne ne l'a jamais fait avant lui. Il va dire que nous sommes ressuscités avec Jésus. Et aux Éphésiens, il va même écrire que nous sommes assis dans les lieux célestes. Cela mériterait peut-être un développement aussi pour expliquer toutes ces expressions, mais ça nous montre de façon extraordinaire la position que nous avons en Jésus-Christ. Et parce que nous sommes bien positionnés en lui, alors nous allons avoir un autre point de vue sur la vie et tous ses défis. Nous allons pouvoir avancer dans la vie sans nous laisser intimider. Jésus a combattu pour nous sur la croix contre les coalitions du mal. Par sa résurrection, il proclame sa victoire totale et définitive de la vie sur la mort. La victoire sur le mal et la mort n'est pas notre affaire, c'est l'affaire de Dieu par Jésus-Christ. Il a combattu pour nous et il a tout accompli, mais il nous demande de nous tenir là, de prendre position en lui par la foi dans son amour infaillible. Nous avons besoin de nous rappeler qui nous sommes en Jésus-Christ, et c'est peut-être l'occasion, en ce dimanche, qui est le premier jour de la semaine, de nous rappeler ensemble qui nous sommes par la grâce de Dieu. De lâcher prise aussi sur le contrôle illusoire de sa vie et des événements et de lui faire confiance, de faire tout à nouveau un pas de foi. Lâcher prise et prendre position, c'est toute l'histoire du roi Josaphat et peut-être la nôtre également par la grâce de Dieu et l'action de son Esprit Saint. Et je voudrais terminer maintenant avec une citation d'un chrétien hongrois qui s'appelle Gábor Evenessy, qui a vécu au XVIIe siècle et qui reprend un petit peu cette idée de prendre position puis en même temps de lâcher prise dans des termes assez soutenus quand même, mais je vous le lis pour conclure cette prédication et je laisserai ensuite quelques chants et ensuite ce temps d'échange avant encore d'aller plus loin. Il dit ceci, il dit « Fiez-vous à Dieu en agissant comme si le succès de chaque chose dépendait entièrement de vous et nullement de Dieu. Et cependant, en employant tous vos soins à la faire réussir, ne comptez pas plus sur eux que si Dieu seul devait tout faire en vous. » Il y a une sœur catholique, maintenant je ne me souviens plus de son prénom exactement, qui disait à peu près, je pense qu'elle se basait un petit peu sur cette citation-là, qui disait cela avec la prière aussi et l'action. Hein. Des fois, on a tendance à opposer la prière et l'action. Prions comme si l'action ne servait à rien et agissons comme si la prière n'était pas utile. Amen.